STL équipe.
Croisé courte gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour Carrément Tennis, une heure de l'actualité de la planète tennis, de la petite balle jaune, direction aujourd'hui bien sûr les États-Unis où se dispute actuellement le premier des deux Master 1000 consécutifs, Indian Wells, Miami. Du côté d'Indian Wells, on atteint le Money Time, le Showtime même, avec les quarts de finale, et avec plaisir nous avons appris cette nuit que Richard Gasquet sera parmi les 8 derniers qualifiés de ce tournoi grâce à sa victoire sur Andy Roddick, l'américain. Ce n'est pas sans nous rappeler une petite Wimbledon 2007 et cette superbe victoire que Gasquet avait remportée également contre Roddick. Le voilà en quart de finale contre Novak Djokovic, le Serbe, sans doute le meilleur joueur du monde actuellement. 17 victoires consécutives. Il a encore une fois laminé son adversaire 6-0, 6-1 contre son compatriote Viktor Troicki. Qui peut battre Novak Djokovic dans ce tournoi? On vous pose la question. Les meilleurs sont là tout de même. Roger Federer se promène, même s'il n'a pas eu à jouer Raonic. Ça s'est bien passé face à Harrison. Et puis, Rafael Nadal a un petit peu souffert, contrairement au premier tour, face au qualifié indien de Varman. Mais victoire quand même solide en 2-7 du numéro 1 mondial, qui retrouvera le géant Ivo Karlovic au prochain tour, avant peut-être de défier Juan Martín Del Potro, l'Argentin, plus que jamais de retour. Il a battu Philippe Kohlschreiber et lui sur une série de 9 victoires consécutives. Il est d'ores et déjà 90e mondial et va grimper très très vite pour retrouver les sommets. Dans le tableau féminin, là aussi, très belle surprise dans les rangs français avec la qualification pour les demi-finales, le dernier carré de Marion Bartoli après sa victoire sur Ana Ivanovic. La Serbe de retour quand même au premier plan après une victoire notamment sur Jelena Jankovic, la tenante du titre. Ça passe aussi pour Caroline Wozniacki, la Danoise. Et puis Bartoli, ce sera face à Wickmayer. La demi-finale, il y a donc un bon coup à jouer. On a perdu Clijsters dans ce tournoi, on expliquera pourquoi. Et puis chez les filles, il y en a des choses également qui se passent. On en parle ce matin dans Carrément Tennis.
Like RTL équipe, Carrément Tennis.
Nous sommes ensemble. Il y a déjà les experts. Miami, c'est la semaine prochaine, monsieur Pareil. Ah, ça va être bon. Les experts, c'est vous. Carole Bouchard, bonjour. Comment ça va?
Très bien.
On a perdu une experte d'ailleurs. Elle est dans l'avion pour Miami. Myrtille Rambion, que l'on salue, qui couvrira pour nous le tournoi de Miami la semaine prochaine. Salut Émilie Loi.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va pas mal.
Un petit peu mal au dos apparemment.
Oh, purée,
oui. Oh là là.
La peau.
Là, elle est en train de se dire, qu'est-ce que ça va être les prochaines semaines?
L'angoisse.
Bon courage, hein, avec la chaleur qui arrive l'été, bon courage. Bon, merci d'être avec nous Émilie. Julien Varlet également est avec nous. Tout le monde dort peu en ce moment, hein, parce qu'avec le décalage horaire, forcément, on regarde les matchs la nuit.
Effectivement.
Oui. Ça va?
Ouais, très bien.
Ça
des
pique
petits
un peu.
Aussi, hein. Ah, ça pique un
ça
peu.
Ça pique un peu. Ouais. Toi, genre, vous avez regardé tous les matchs?
Ah non, pas tous.
Ah non,
pas
tous.
Je
peux pas. À un moment.
Elle est énorme.
À un moment,
oh,
j'avoue, pas tous.
Pas tous.
Sachant que j'ai pas la fameuse TV, je suis sur Internet, donc ça va pas vite.
D'ailleurs, on comptait beaucoup sur Benoît Mélin ce matin, puisque c'est diffusé, bien sûr, sur Orange, ce tournoi d'Indian Wells. On attendait Oran Juice, qui lui est obligé de tout commenter, de tout voir.
On l'a perdu.
Bah, il est pas là. On se pose des questions, on est très inquiets.
Son chauffeur n'est pas passé le prendre, en l'occurrence moi. Donc
on va lui envoyer des textos pour qu'il nous rejoigne dans cette émission, parce que lui, pour le coup, a commenté et vu tous les matchs. C'est donc le mieux placé d'entre nous. On a également Georges Homsi, qui est sur place aux États-Unis et qui, grâce à lui, vous allez écouter les réactions et les commentaires des rencontres, notamment celle de Richard Gasquet. Donc merci à tous d'être avec nous. On va passer un petit coup de fil à Benoît pour savoir où il en est. Et on va attaquer donc cette émission par la qualification pour les quarts de finale de Richard Gasquet, qui est tout simplement le joueur français le plus régulier en ce moment, je lui ai parlé.
Ouais, moi je trouve ça super bien, parce que on en avait souvent parlé depuis quelques mois. Il gagnait sur des joueurs qui étaient un peu en dessous de lui, mais dès qu'il jouait un peu au-dessus, bien il pliait tout de suite rapidement, et là il enchaîne de belles victoires. Donc c'est aussi une surface qu'il apprécie, dure extérieure. Après, bon, Richard joue quand
pas
même
trop rapide
dans l'absolu, bien sur toutes les surfaces. Mais voilà, je trouve que d'enchaîner en plus, c'est plutôt pas mal. Alors, il est pas tombé forcément sur le meilleur Roddick qu'on puisse connaître. Mais en tout cas, voilà, il a le don d'être encore présent et c'est vraiment bien. Puis de se frotter au meilleur. Et actuellement, c'est quand même Djokovic le meilleur. Ça peut être un match intéressant.
Alors, c'est vrai qu'il coinçait, vous l'avez dit, par exemple, contre Thomas Berdych à l'Open d'Australie. On ne l'avait pas vu battre un top 10 depuis longtemps. Richard Gasquet, Émilie, vient d'en enchaîner deux. Alors, attention, on va tout de suite replacer les choses dans leur contexte. Jürgen Melzer, c'était le même fantôme qu'on avait vu à Vienne en Coupe Davis.
Arrêtez, il gagne, mais là, il joue des fantômes.
Mais il gagne facilement. Et Roddick, par contre, même si Roddick est lui aussi un petit peu moins bien depuis plusieurs mois, c'est quand même Roddick aux États-Unis, il faut quand même le battre.
Ouais, il est bas, avant il est battait pas. J'ai bien aimé son interview, c'était hier ou avant-hier, quand il dit je suis encore loin des meilleurs. Il se protège quand même encore hein, du.
Toujours ça.
Pour pas être.
Il est 20, cela dit. Hein.
Sur le devant de la scène. Donc moi je trouve ça bien. J'ai pas vu son match cette nuit, j'ai juste vu quelques balles par moment et notamment à la fin. Je trouve que déjà dans son regard. On sent quand même un joueur qui est déterminé. Contrairement, il y a quelques semaines, on sentait un joueur un peu imbattu, pas complètement dedans. Là, on sent que c'est un autre Richard Gasquet. Ça se voit dans ses résultats. Donc, effectivement, au prochain tour, ça va être une confrontation assez intéressante face à Novak Djokovic.
Alors, ce qui est très intéressant dans son match contre Roddick, et c'était déjà le cas dans le match contre Mazer, on va dire depuis le début du tournoi, il y a cette fameuse volonté de la part de son nouveau binôme de coach, Ricardo Piatti et Sébastien Grosjean, de le voir tenir sa ligne et ne pas refuser d'avancer, donc ne pas reculer, de ne pas subir. Et contre Roddick hier, on peut clairement le dire, Carole, il a dominé ce match, pas de la tête et des épaules, mais il l'a dominé. C'est lui qui était scotché à sa ligne, on l'a vu prendre beaucoup d'initiatives et il n'a pas reculé. Ça, c'est vraiment le point positif sur ce match.
Et c'est ce qui m'a le plus plu, moi, dans ce match-là, c'est la manière avec laquelle il a gagné, enfin agressif, enfin offensif. Comme l'a dit Émilie, dans le regard, c'était plus le même joueur. Il a montré à Roddick qu'il n'allait pas lâcher et il l'a eu au mental, ce qui est quand même pas rien. Il a un peu coincé physiquement après un 7,5, mais il s'est battu. Il a pas reculé pour se préserver. Il a encore avancé. Il fait un super tie-break. Le revers, il est parti, mais comme à la belle époque.
Bah, la balle de match est très symbolique.
Alors que c'est une super
un retour
deuxième balle,
de revers sur une deuxième balle kickée qui est limite dans les bâches. Il lui met un retour de revers limite gagnant à l'angle opposé. Ouais. Voilà, il l'a lâché.
Il a joué comme il doit le faire et comme on lui dit qu'il doit le faire depuis des années. Donc c'est moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est la manière. Après, moi, je m'inquiète maintenant pour Andy Roddick parce que honnêtement, il m'a semblé complètement
très nerveux déjà.
Perdu, il a été odieux avec l'arbitre. Non mais il a pourri l'arbitre parce que son service était annoncé lettre. Bah oui, enfin c'est pas la faute de l'arbitre, il y a une sonde, elle est lettre, il a été atroce. Donc j'ai l'impression mais de lui-même il doit se dire mais il y a plus rien qui part, le service Gasquet a super bien retourné et ça l'a frustré. Le revers, on sait que c'est pas son fort, c'est encore pire que d'habitude, mais en coup droit, il y a plus rien.
Julien, vous le connaissez bien, Richard Gasquet. Justement, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce tournoi, au-delà du résultat? C'est l'attitude, c'est le sourire, c'est le fait de le voir un peu blaguer. On sait que depuis le début de la semaine, par exemple, il chambre avec son coup droit qui est bien sûr.
Il y a du boulot encore.
Ouais, non, bien sûr qu'il y a du boulot, mais c'est vrai qu'on l'a vu blaguer sur son coup droit en expliquant
il
que c'est la première fois qu'il a un coach, en l'occurrence Grosjean, qui a un meilleur coup droit que lui, parce qu'avant, Vinogradski ou De Blicquer, c'était des caves en coup droit. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vrai que de le voir un peu détendu, de le voir un peu souriant, de le voir un peu chambreur, on se dit peut-être qu'il est un peu mieux dans ses baskets en ce moment. Quoi.
Ouais, par rapport aux déclarations, et puis même ça se voit aussi sur le terrain. Et puis vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le terrain pur aussi. Et comme le dit Carole, sa façon de jouer, je n'ai pas pu voir le match malheureusement, mais si c'est rapproché de sa ligne, c'est vraiment là un point de travail technique qui est très important, parce qu'il a vraiment tendance à jouer très très loin, sur les talons, avoir le corps qui part vers l'arrière, en jouant des balles très, très courtes. Donc là, s'il a tendance à se rapprocher un peu de sa ligne, et c'est comme ça déjà qu'il sait mieux jouer, c'est comme ça qu'il va gêner encore plus les adversaires. Donc voilà, maintenant s'il peut exploiter ce style de jeu contre Djokovic, ça sera très bien. S'il le fait pas, c'est pas forcément grave, mais s'il a déjà joué cette façon de frapper la balle en avançant, il pourra le faire sur les semaines qui viennent.
Est-ce qu'il peut s'y tenir, Émilie, justement à cette nouvelle philosophie qu'on essaye de lui inculquer? Attention, en philosophie dont on a déjà parlé par le passé, hein, c'est pas tout nouveau, tout beau, j'arrive, je me mets sur la ligne. Ça fait plusieurs fois, plusieurs mois, plusieurs années qu'on lui dit.
Mais déjà, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, donc le fait d'aller sur sa ligne, il sent bien la balle, il sent bien les choses, donc s'il le décide, il va le travailler bien évidemment en entraînement, il va y arriver. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que Ricardo Piatti, je connais pas, mais déjà il a quand même des résultats avec
Lubicic
pendant des années, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et je trouve très bien d'avoir pris Sébastien Grosjean pour déjà jouer près de sa ligne. C'était un petit peu, c'est pas le même jeu que Sébastien Grosjean, mais ça se rapproche quand même. Moi, je trouve pas ça si loin que ça.
Alors Grosjean c'est intéressant ce que vous dites. Grosjean dit c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi j'avais un excellent coup droit. Et plutôt un revers moyen.
Oui, non, mais quand on parle du coup droit et du revers,
il dit aussi, voilà, en revers, j'ai arrêté un moment dans ma carrière de subir sur mon revers, et de temps en temps, je le lâchais, quitte à ce qui est, voilà, et il dit, je veux que Richard en fasse de même avec son coup droit et qu'il en prenne conscience.
Voilà, je parle pas du coup droit du revers, je parle juste du positionnement sur le terrain, donc ça, je trouve ça intéressant. Sébastien était troisième mondial, il me semble, au niveau de la notoriété, etc. C'était pas le joueur le plus connu sous le feu des projecteurs. À mon avis, c'est ce que veut Richard. bien jouer, rentrer peut-être dans les 10 au fur et à mesure avec un bon travail mental.
Revenir,
et surtout,
il a déjà été.
Ouais, revenir dans les 10, mais surtout revenir dans les 10, mais discrètement. Faire son truc, mais voilà, qu'on n'en parle pas trop, etc. Et c'est un peu ce que Sébastien a fait. Donc, je trouve que c'est assez similaire. Les deux carrières peuvent être assez
intéressantes. À la différence de Grosjean, c'est, vous avez raison de souligner ça, mais à la différence de Grosjean, est-ce que si Richard Gasquet revient dans les 10, est-ce que ça peut être, entre guillemets, dans un relatif anonymat? J'ai envie de vous dire non, d'abord,
impossible.
Parce qu'il y a toute l'histoire Gasquet depuis
impossible.
Toujours.
Non, mais...
Et en plus, en ce moment, eh ben, quand on voit mon fils blessé, ah, Simon oui. un peu à côté, de son gars qui nous annonce, on verra tout à l'heure, des choses un peu bizarres, bon, ben, forcément, tout non, va se focaliser sur Richard.
Si ensuite, il y a un moment ou un autre, il pourra pas non plus se cacher, même si plus, si, tant mieux pour lui, mieux il joue, mieux il va, plus il va gagner de matchs, il pourra pas se cacher. Mais il y a une chose aussi importante, c'est de se rapprocher de sa ligne, c'est très bien. Mais après, faut tenir physiquement. Parce
c'est
que jouer près de sa ligne, ça veut dire quoi? C'est être plus bas sur les jambes, être plus rapide sur les jambes, avoir des bonnes cannes. Alors Richard, de bonnes cannes, mais est-ce qu'il peut le répéter?
On l'a senti hier. Hein.
C'est la chose où il l'a senti, donc il peut le faire.
Ouais.
Ça, comme le dit Émilie, il a une bonne main et tout ça, il sent vraiment le jeu, donc ça c'est indéniable. Mais physiquement, il va falloir tenir au niveau des cannes, de l'endurance, donc ça engendre plus d'heures sur le terrain.
D'un autre côté,
et
ça
voilà,
prévoit peut-être un peu moins de travail cardiaque de défense, et c'est pas forcément
oui.
son point fort.
Mais
il
faut avoir de l'endurance musculaire. Je parle pas qu'au niveau cardiaque, c'est avoir l'endurance musculaire pour pas non plus saturer au bout de quelques jeux parce qu'il est asphyxié. Parce que s'il veut pas reculer, il faudra être solide.
Ouais, il a dit hier à la fin du deuxième, heureusement qu'il n'y a pas eu de troisième parce que j'aurais été très très mal.
Ouais, c'est le travail qui commence en fait
ouais,
à faire.
C'est ça.
C'est pas grave, même s'il tient que 2-7.
Moi,
je trouve
voie.
Que c'est intéressant. Même s'il tient que 2-7 pendant
toute
un mois ou deux,
il ne peut briller que comme ça.
Ah, voilà. Mais s'il joue pas sur sa ligne face à Djokovic, il est mort.
Non, mais Djokovic,
clair.
À la limite, on va laisser le match
oui,
à part. Bien sûr, s'il y a un exploit, tant
oui,
mieux.
Mais c'est la seule solution maintenant s'il veut aller encore plus vers l'avant. Et s'il joue encore 3 mètres dans la bâche, ça sert à rien.
Oui,
et ça, il l'a compris.
Et puis
et
contre Djokovic,
hein.
contre Federer,
souvenez-vous de Shanghai.
Contre Söderling, ce sera pareil.
La dernière fois qu'ils sont joués à Shanghai, il a pris 1-1 parce qu'il était 4 mètres derrière la ligne.
En ce moment, tout le monde prend 1-1 contre Djokovic. On en reparlera tout à l'heure. Bon, Richard Gasquet, positif quand
ah
même.
Bah
ça.
Oui. Bah oui.
Il se passe des choses, c'est plutôt intéressant.
L'épaule
a l'air de tenir. Il a servi à 80% de première balle et plutôt bien sur ce match.
Juste un truc. Par rapport au passage de Blicker Grosjean, je pense qu'en fait, Seb est un peu dans la même philosophie qu'Eric, sauf qu'il est un peu plus de la génération de Richard. Donc voilà, il va y avoir un discours qui sera un peu plus.
Si
plus
en plus, il lui apprend la belote. Alors là, c'est génial.
On l'a senti sur le bord du cours. Hein. Hier, on l'a vu un Grosjean très, très impliqué dans le match qui lui parlait, qui le remotivait. Donc il est. Et Richard l'a regardé plusieurs fois, ce qui n'est pas tout le temps son truc. Et on a senti qu'il avait besoin. D'avoir ce monde-là près de lui. Quoi.
Alors, on verra les deux, d'ailleurs, Piatti et Grosjean, sur cette tournée américaine. Ensuite, ce sera plus Piatti.
J'attends de voir comment ça va se gérer le
pendant
le
la tournée sur terre battue européenne, et notamment
facile,
le début
hein.
Monte-Carlo, Rome et tout ça.
Parce que Piatti parle pas vraiment français, Richard l'anglais, voilà. Est-ce que passer de Grosjean à Piatti, comment on... Ah, mais un binôme, c'est pas facile, un binôme
ouais,
d'entraîneur.
Ça va, mais ça peut lui faire du bien. Et puis la terre battue, Richard, il peut très très bien jouer,
Piatti,
donc il peut être aussi très présent sur la tournée sur terre battue.
Puis psychologiquement, si ça se passe bien avec Sébastien, imaginons, même s'il perd face à Djokovic
oui,
au prochain tour, ce sera un bon tournoi. S'il fait un petit quart à Miami, ce sera également un bon tournoi. C'est pas facile de changer. C'est un peu changement de coach.
Moi, c'est ça qui me.
Mais Piatti là aussi. Donc, je pense qu'il discute vraiment avec une philosophie sur le moyen terme. Donc,
mais ça va être intéressant de voir comment Richard il va, entre guillemets, quitter Grosjean pour retrouver quelqu'un d'autre.
C'est vrai. Et puis sur terre battue, c'est vrai que t'as tendance forcément à reculer un peu, mais lui peut peut-être imposer justement à des joueurs qui
c'est
jouent.
C'est sa surface,
voilà.
Oui, de toute façon, la terre. Donc.
Il joue bien sur terre, hein, Richard.
Ah bah,
c'est l'un d'ailleurs des joueurs, des rares joueurs sur le circuit, à pouvoir vraiment très bien jouer sur toutes les surfaces.
Ah bah oui,
si on, parce qu'il joue il peut très bien jouer sur gazon avec son bras.
D'accord.
Sur terre, il a toujours eu plutôt des bonnes dispositions. Et sur
après,
dur, bon, bah,
après,
c'est
ce
une
problème,
surface
c'est
intermédiaire.
Après, le physique, tenir la distance.
Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un joueur très polyvalent,
ouais, moi,
finalement.
Moi, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à l'époque, bon, ça remonte un peu, hein, où on s'était entraîné énormément ensemble. Et à l'époque, lui, il était avec Tariq Benabiles. Et juste après l'Australian Open.
Ça n'avait pas duré longtemps, Stéphane.
Non, mais juste après l'Australian Open, Eric lui avait dit voilà, on part faire la tournée. On est sud-américain sur terre, au lieu de revenir sur dur parce qu'il faut que tu travailles ton fond de jeu. Donc,
c'est vrai.
Il n'était pas bête non plus, notre ami Tariq.
Ouais, c'était pas mal cette tournée sud-américaine. Je voudrais qu'on l'écoute, Richard Gasquet, de bonne humeur, forcément, avec le sourire, mais comme l'a dit Émilie, je ne m'enflamme pas quand même, je ne vais pas trop vite en besogne, c'est peut-être pas plus mal. Richard Gasquet au micro de Georges Homsi après sa victoire sur Andy Roddick et sa qualification pour les quarts de finale de ce tournoi d'Indian Wells.
Non, c'est bien d'avoir pu gagner un joueur comme ça sur le central ici, j'avais perdu quand même 3 fois en 8e. Bah, à chaque fois j'avais perdu sur lui, sur Blake, sur Federer aussi, donc c'était un très beau match, donc je suis content d'avoir pu gagner. Quoi. Surtout que je dominais vraiment quand même, 6-3-4-2, je dominais. C'est important, je suis arrivé ici avec de la confiance, tout ça. J'avais bien joué à Dubaï, j'avais fait un beau match sur Gilles et un beau match sur Federer. Donc, je suis arrivé ici bien déjà. Bien à l'entraînement. Je me sentais que j'étais par l'épaule, un peu quelques douleurs, mais je sentais que je tapais bien la balle. Donc, c'est très important. Voilà. Je suis arrivé avec des victoires. C'est toujours l'éternel problème, la confiance, tout ça. Donc, je sentais que j'étais en confiance en arrivant ici. Puis bon, je me sens bien avec sincèrement avec Sébastien et Cardo, ça se passe bien. Donc, je joue bien, la surface me va pas mal. Donc, voilà, ça se passe pas mal. Quoi. Après, déjà, je me sens bien avec eux dans la vie de tous les jours. Mais avec Eric aussi, je me sentais bien. J'ai passé de très belles années, mais là, ça continue. Donc, la transition est bonne. En dehors, tu vois, ça fait presque deux semaines qu'on est ici. Je ne vois pas le temps passer. Je peux avoir quelques périodes. Des fois, aux États-Unis, je trouve que ça peut être un peu assez long. Là, je me sens bien ici. Je joue bien. Donc, ça se passe pas mal. Ce que je sais au tennis, c'est que c'est un éternel recommencement. C'est jour après jour. Donc, on ne peut jamais s'enflammer non plus.
Voilà, ne pas s'enflammer. Richard Gasquet qui trouve pas le temps long pour une fois sur la tournée américaine. Il a l'air bien.
Il a l'air
voilà.
heureux.
Il n'y a pas besoin chercher des mots compliqués. Il a l'air bien. Il a l'air d'avoir envie de jouer au tennis. Bon, faut pas qu'il sorte hein, dans 10 jours. Il reste
arrête de dire des choses pareilles.
Oh non, c'est une petite boutade. Mais voilà, non, mais il va bien. C'est cool.
Ah non, puis quand il gagne à la balle de match, il fait un truc que moi je l'ai jamais vu faire, c'est qu'il se retourne vers son clan en leur montrant c'est moi le patron, quoi. Ça y est, je l'ai fait. Et Richard Gasquet avec un peu d'arrogance face à un Roddick, honnêtement, c'est la nouvelle de la soirée.
Ouais, pas trop d'arrogance comme chez Richard Gasquet.
Non, mais
il serait malade. C'est
il a vraiment
qui
montré
coule.
À Roddick que c'était lui le boss sur ce match-là, et je peux vous dire que l'Américain, il l'a pas bien vécu du tout.
Alors on va faire un volte-face complet et dans la personnalité et dans les résultats, en tout cas sur ce tournoi d'Indian Wells, pour évoquer le cas de Joe Wilfried Tsonga, qui personnellement m'inquiète. Vraiment beaucoup. Alors, c'était pas tant la défaite d'entrée à Indian Wells, pardon, face à Xavier Malisse. C'est tout ce qui se passe là depuis 15 jours, 3 semaines autour de Joe Wilfried Tsonga. Et cette communication, certes transparente, donc on peut louer ça, mais sur son intention de changer de style de jeu, ou du moins de varier son style de jeu pour venir à quelque chose de plus agressif, pour écourter le côté physique du travail et des échanges, parce que il dit lui-même, Émilie, et moi ça m'a vraiment choqué, mon corps ne tiendra pas si je ne fais pas ça. C'est-à-dire qu'il dit en gros clairement à toute la concurrence sur le circuit, physiquement je tiens plus, donc ou je joue comme ça ou je peux plus jouer. C'est un aveu de faiblesse, mais terrible.
Non mais quand est-ce qu'il a joué dans des filières longues, son gars?
Non mais d'accord, mais...
Moi franchement je le comprends pas, tu trouves qu'il parle en toute transparence?
Bah,
moi,
ça sent le plan comme...
Ou alors il nous enfume,
mais... C'est bizarre. Je sais pas qui le conseille au niveau de sa communication, mais personnellement je la trouve complètement nulle. Je comprends pas, que ce soit la Coupe Davis ou même là maintenant, il fait des déclarations... qui pour moi ça rime à rien, c'est pas digne d'un joueur de haut niveau quand il dit voilà je vais prendre la balle tôt, en gros je vais me jeter au filet, service volé, retour volé, attends ça existe pas ça. Oui service volé oui, mais enfin bon le tennis de maintenant il y a très peu de joueurs qui vont tout le temps au filet, pourquoi? Parce que ça joue plus vite, les joueurs jouent plus long, c'est plus difficile, donc déjà il faudrait un physique déjà hors norme pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Ensuite, c'est le joueur, alors lui, qui déclare « il me faut un grand titre, il faut que je gagne un grand chelem, etc. » Mais il n'est pas du tout en harmonie entre ses déclarations et ce qui monte sur le terrain. Il y a un monde d'écart. Donc c'est assez surprenant. Après, je pense que réellement, il a de gros problèmes physiques. Ça, c'est une certitude. Après, comment il les gère, j'en sais rien. Mais je trouve que dans sa communication, ça ne va pas. Sur le terrain, ça ne va pas. Enfin, en tout cas, les deux sont...
Il y a quelques bruits qui tournent autour du circuit, là, qui gravitent dans le circuit, qui disent vraiment qu'il est... Alors, c'est un peu ce qu'il dit en filigrane, d'ailleurs, dans ses déclarations. Il est sur un fil, justement. Oui, c'est que ça peut péter à tout moment et ça peut péter gravement.
Oui,
alors là, il y a l'hernie inguinale, il y a eu le ménisque, il y a eu le dos.
Il est en cristal.
C'est surtout le genou, apparemment, qui pose problème.
Tu ne peux pas, à Melbourne, envoyer promener toute une salle de presse qui lui pose des questions sur ses blessures en disant « Mais arrêtez de me parler de mon physique, vous me saoulez, tout va bien, il n'y aura pas de surprise dans un mois. » Un mois après, nous dire « Bah ouais, j'ai une hernie. » Et deux semaines après, « Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout, ma carrière, je m'inquiète. » Évidemment, on le sait qu'il est en cristal, mais le problème, c'est qu'on est tellement perdu dans sa com qu'on ne sait, plus ce qui se passe. Alors, qui disent je veux jouer plus vite, mais il me semble qu'il a tout le temps une filière hyper courte, son gars. Donc je vois pas ce qui va changer. Et que je suis d'accord avec toi, de dire à la concurrence, oh là là, en ce moment c'est la catastrophe physiquement, je vais pas m'en sortir. Bah tous les mecs qui vont le jouer vont le forcer à jouer dans une filière.
C'est ça, Julien, parce que moi j'ai souvenir de Rafael Nadal, par exemple, qui a jamais voulu parler de ses problèmes physiques. Le jour où il y a eu l'histoire du pied de son oncle, qui avait été un peu maladroit en fin de saison. Tout de suite, ça avait pris des proportions énormes. Et c'est vrai qu'en général, on essaye de pas donner d'indication à la concurrence, quoi.
Non, mais après, personnellement, moi, déjà sur un plan tactique, je pense que je me tairais. Et sur un plan physique, après avoir des déclarations, dire des choses et tout ça, ça peut passer. Mais comme tu dis, ça donne des indications. Même moi qui suis à la retraite, demain je joue de son gars à Roland. Je suis content de jouer de son gars à Roland parce que tu sais que si tu l'amènes dans un quatrième ou un cinquième set, il va plier. Donc déjà là, sur la saison sur terre battue, il te donne des indications.
Oui,
venez les gars, venez me jouer sur terre.
Faut-il qu'il la joue d'ailleurs cette saison sur terre battue? Soyons honnêtes.
Au moins Roland.
Il est en train de nous expliquer en gros qu'il vise une carrière avec des gros coups et qu'il nous dit je ne peux pas jouer personnellement une saison complète.
Qu'il fasse ce que fait Roddick sur terre. Il fait juste un tournoi, deux tournois grand maximum avant, et puis voilà, c'est tout.
Avec le risque de perdre le rythme, Roddick l'a tenté la saison dernière, il s'est planté son Wimbledon. La terre battue, ça t'aide, mine de rien.
Mais de toute façon, c'est pas sa surface, la terre. Donc de toute façon, faut qu'il joue.
Il s'en défend, hein. Il dit c'est pas
oui,
vrai.
Oui, mais c'est un Français.
Aussi. Il est pas bon sur terre.
Non, mais l'an dernier,
il y a plein de joueurs qui adoraient avoir son niveau de jeu, voilà, toute proportion gardée. Mais c'est pas un joueur de terre, il déclare qu'il a envie de jouer sur terre, mais d'ailleurs, comment il s'appelle son entraîneur
Vinogradski
l'a repris dans les journaux que son jeu n'allait pas être révolutionné en quelques semaines. C'est n'importe quoi. Et quand il dit qu'il veut gagner quelque chose de grand, ok, mais là il parle de tactique alors qu'il a un travail technique qui est énorme à faire. Il a un revers qui est quand même super limite et il a un retour de service qui laisse à désirer. Donc déjà, il y a quand même un travail technique à faire avant de parler serait-ce que tactique.
J'ai l'impression qu'il se noie dans des trucs périphériques. Alors, est-ce que c'est parce qu'il peut plus faire le travail de fond pour vraiment solidifier son jeu?
Est-ce qu'il en a envie?
Est-ce qu'il se fait influencer?
Parce que c'est un gros bosseur quand même,
oui,
normalement.
Mais est-ce qu'il se fait aussi influencer? On peut se poser la question par l'entourage. Parce que Roland Garros, pourquoi? Parce qu'il est français. Pour les sponsors, ça serait génial qu'il fasse un gros coup. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui lui disent, mais Joe, tu peux être top 5, tu vas gagner un grand chelem,
oui,
t'es top?
Alors, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus un joueur de gazon.
C'est un joueur de dur.
Bah oui, c'est un joueur de dur.
C'est un joueur de quoi, là?
Non, mais voilà. Pour moi, c'est un joueur de dur. Donc, tu peux pas non plus dire la saison sur terre, je la joue pas parce que un mec comme Mika, et encore pourtant son jeu sur terre en embête plus un,
il a quand même une balle de match pour aller en quart de finale en Roland-Garros.
Il peut se dire, moi je vais jouer à fond Wimb parce que j'ai peut-être un coup à jouer avec mon jeu. Tsonga, je suis pas sûr qu'il puisse miser ou tout parier sur Wimb, par exemple.
Comme dit Emily, c'est que il a, pour moi, depuis le début, alors il a vraiment par rapport à d'autres joueurs des lacunes techniques dans son jeu où tu sais pertinemment que si t'as une certaine phase de jeu, tu le joues, tu le bloques dans un certain endroit, et ça va être hyper dur pour lui. Donc déjà travailler là-dessus. Mais le problème, c'est que moi, je pense que sincèrement, pour m'être entraîné avec lui, pour l'avoir vu travailler physiquement, il peut pas tenir. Déjà, c'est un joueur qui est déjà à la base puissant, qui est quand même un peu lourd, donc ça plus ça, il peut pas travailler comme le fait ne serait-ce qu'un Gilles Simon qui est beaucoup plus fluet et qui peut passer du temps sur le terrain.
Est-ce que là, il sent pas aussi tout simplement que toutes les ambitions qu'il a eues, peut-être qu'il va pas réussir à les concrétiser? Est-ce que c'est pas une forme de panique et de se rendre compte que là, il est devant une limite qu'il pourra pas franchir? Parce que moi, je comprends pas non plus toute sa communication là. Honnêtement, c'est
après,
c'est
bizarre, il est peut-être paumé aussi.
Oui.
Ouais. Ça puis il y a aussi une chose importante, c'est que mine de rien, on le dit, on le répète, s'il joue pas à 200% sur un match, quasiment il peut se faire battre par tout le monde. Là, c'était le cas contre Malice, il fait pas un énorme match, il passe à la trappe. S'il est pas à 200%, s'il sert pas comme une brute, si son coup droit, vient pas enfoncer son adversaire. Voilà, c'est un peu ça le souci. Alors après, ça reste un joueur quand même exceptionnel, parce qu'il a fait quand même des résultats incroyables.
Non,
mais au fur et à mesure, les joueurs le connaissent un peu plus, savent comment il est, tout ça. Et comme le dit Émilie, je pense que voilà, il déclare parce qu'il arrive en conférence de presse et puis voilà, il sait pas trop quoi dire, donc il sort deux trois trucs comme ci comme ça quoi.
Alors écoutons-le justement sa justification avant le tournoi d'Indian Wells sur ce changement de jeu. Alors c'est louable quand on l'écoute comme ça de prime abord, mais c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger.
C'est des changements, donc forcément il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais je suis vraiment convaincu que c'est dans ces conditions-là que j'ai envie de continuer ma carrière. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Mon physique il tient pas, donc je suis obligé quelque part de changer les choses. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence. Alors comme partout, des fois il y a des galères. Hein. Puis quand ça s'ouvrira, je me dirai quand